Chapitre 23. De Tuor et de la chute de Gondolin. Il a été dit que Uor, frère de Húrin, mourut dans la bataille des larmes innombrables. Et à l'hiver de cette année-là, son épouse Rian donna naissance à un enfant dans les solitudes du Mithrim. Il se nommait Tuor et fut pris en adoption par Anael des Elfes Gris, qui vivait encore dans ces montagnes. Or, quand il eut 16 ans, les elfes décidèrent de quitter les cavernes d'Androth où ils s'étaient établis pour gagner secrètement les havres du Sirion, loin au sud. Mais ils furent assaillis par des orques et des orientais avant d'avoir pu s'échapper, et Tuor fut pris et réduit en esclavage par Lorgan, le chef des orientais du Ithlom. Il endura cette servitude pendant 3 ans, après quoi il s'évada. Et il retourna dans les cavernes d'Androth, où il vécut seul et causa tant de tort aux Orientais que Lorgan mit sa tête à prix. Mais lorsqu'il eut passé 4 années en hors-la-loi dans la solitude d'Androth, Ulmo fit naître en son cœur le désir de quitter le pays de ses pères, ayant choisi Tuor pour être l'instrument de ses desseins. Et Tuor, délaissant de nouveau les cavernes, traversa le Dorlomine vers l'ouest et découvrit Anon Ingelid, la porte des Noldor, ménagé par les gens de Turgon maintes années avant, alors qu'ils vivaient au Nevrast. De là, un sombre tunnel passait sous les montagnes et débouchait sur Kirith Niniak, la faille de l'arc-en-ciel, par laquelle une eau turbulente courait vers la mer de l'ouest. Ni homme ni orc ne s'avisa donc de la fuite de Tuor, et les oreilles de Morgoth n'en perçurent aucun écho. Et Tuor arriva au Nevrast et contempla Belégaël, la grande mer, dont il fut aussitôt épris. Et le son des flots et la nostalgie de la mer demeurèrent toujours en son cœur et à son oreille, et une inquiétude le hantait qui finit par l'emporter dans les profondeurs du domaine d'Ulmo. Il vécut alors seul au Nevrast, et bientôt l'été passa, et voici que la fin de Nargothrond approchait. Mais quand l'automne arriva, il vit passer 7 grands cygnes filant vers le sud, et il sut par là qu'il avait trop tardé, et il suivit leur vol le long des rivages de la mer. Ainsi il parvint enfin aux halles désertées de Vinyamar, sous le mont Talas, et y entra. Et il trouva là l'écu et le haubert, et le haume et l'épée, que Turgon y avait laissés à la demande d'Ulmo longtemps auparavant. Et il se revêtit de ses armes, et descendit jusqu'au rivage. Mais une violente tempête surgit de l'ouest, au sein de laquelle venait Ulmo, le seigneur des eaux. Et il se leva en majesté et parla à Tuor qui se tenait près de la mer. Et Ulmo lui enjoignit de quitter cet endroit et d'aller en quête du royaume caché de Gondolin. Et il jeta à Tuor un grand manteau d'ombre pour le dissimuler aux yeux de ses ennemis. Mais au matin, quand la tempête fut passée, Tuor rencontra un elfe qui se tenait sous les murailles de Vinyamar. Et c'était Voronwë, fils d'Aranwë de Gondolin, qui s'était embarqué dans le dernier des navires envoyés par Turgon dans l'ouest. Il revenait enfin du grand large, lorsque son navire avait sombré dans la violente tempête en vue des côtes de la Terre du Milieu, mais Ulmo l'avait fait remonter des profondeurs, seul de tout l'équipage, et l'avait ramené à terre près de Vinyamar. Et quand Tuor lui parla de l'injonction qu'il avait reçue du Seigneur des Eaux, Voronwë s'étonna grandement, et il ne lui refusa pas son aide, mais consentit à le guider vers la porte cachée de Gondolin. Ils prirent donc la route ensemble, et assaillis par le cruel hiver venu du nord cette année-là, se frayèrent un chemin vers l'est, sous le couvert des montagnes de l'ombre. Ils voyagèrent ainsi jusqu'aux fontaines d'Ivrin, où ils ne purent que constater la dégradation causée par le passage du dragon Glaurung. Mais tandis qu'ils s'affligeaient de ce triste spectacle, ils aperçurent un homme qui se hâtait vers le nord, très grand, tout vêtu de noir, et portant une épée noire. Or, ils ne savaient rien de lui, ni de ce qui s'était produit au sud, et ils le regardèrent passer sans lui adresser la parole. Et enfin, grâce au pouvoir dont Ulmo les avait investis, ils arrivèrent à la porte cachée de Gondolin, empruntèrent le tunnel et parvinrent à la porte intérieure où des gardes les firent prisonniers. Ils remontèrent alors le grand ravin d'Orfalk Ekor, fermé par sept portes, et se tinrent devant Ectelion de la Fontaine, gardien de la grande porte au haut de cette montée. Là, Tuor rejeta son manteau, et les armes qu'il apportait de Vinyamar révélèrent à tous cette vérité, qu'il était l'envoyé d'Ulmo. Tuor contempla alors la belle vallée de Tumladen, comme une pierre verte, sertie dans les montagnes environnantes. Et il vit, perché sur le grand roc d'Amon Gwareth, au loin, Gondolin la Grande, la cité aux sept noms, célébrée dans les champs, dont la gloire et la renommée sont sans égale entre toutes les demeures des elfes sur les terres citérieures. Sur l'ordre d'Ectelion, les trompettes retentirent au sommet des tours de la grande porte et les collines se remplirent d'échos. Puis, une autre sonnerie monta en réponse, lointaine mais claire, des blanches murailles de la cité, rosies par l'aurore inondant la plaine. C'est ainsi que le fils de Uor traversa la prairie de Tumladen à cheval et arriva à la porte de Gondolin. Et il gravit les larges marches de la cité jusqu'à la tour du roi et contempla les images des arbres du Valinor. Tuor se présenta bientôt devant Turgon, fils de Fingolfin, grand roi des Noldor, et à main droite de celui-ci se tenait Maeglin, son fils de sœur, mais à main gauche était assise Idril Celebrimdal, sa fille. Et tous ceux qui se trouvaient là s'émerveillèrent d'entendre sa voix, ayant peine à croire qu'il s'agissait en vérité d'un homme mortel, car ses mots étaient ceux du Seigneur des Eaux parlant à travers lui. Et il prévint Turgon que la malédiction de Mandos, qui verrait la ruine de tous les ouvrages des Noldor, touchait à son aboutissement, et lui conseilla de partir, d'abandonner la belle et grande cité qu'il avait bâtie, et de descendre le Sirion jusqu'à la mer. Lors, Turgon médita longtemps le conseil d'Ulmo, et il se rappela les paroles qui lui avaient été adressées à Vinyamar. « Ne chéris pas trop l'œuvre de tes mains, ni les aspirations de ton cœur, et souviens-toi que le véritable espoir des Noldor réside dans l'ouest et provient de la mer. » Mais Turgon était désormais orgueilleux, et Gondolin devenue aussi belle que l'elfique Tirion. Et il avait encore foi en sa force secrète et inexpugnable, quand même un Vala eût-il pensé autrement. Et après les Nirnaeth Arnoediad, les gens de la cité souhaitèrent ne plus jamais avoir part au malheur des elfes et des hommes de l'extérieur, ni braver la terreur et le danger pour retourner dans l'ouest. Enfermés derrière leurs monts inaccessibles et enchantés, ils ne permettaient à quiconque d'entrer, fût-il poursuivi par la haine de Morgoth. Et de l'extérieur ne leur parvenaient que de faibles et lointains échos, auxquels ils ne prêtaient guère attention. Les espions d'Angband les cherchaient en vain, et leur pays n'était qu'une rumeur, un secret que nul ne pouvait découvrir. Maeglin ne cessait de s'opposer à Tuor au conseil du roi, et ses avis pesaient d'autant plus lourd qu'il rejoignait le cœur de Turgon. Et celui-ci finit par rejeter la demande d'Ulmo et ne suivit pas son conseil. Mais la mise en garde du Vala lui avait rappelé les paroles prononcées longtemps auparavant, lors de la fuite des Noldor sur les côtes de l'Araman. Et la crainte d'être trahi s'éveilla dans le cœur de Turgon. En ce temps-là, donc, on fit en sorte de bloquer l'entrée même de la porte cachée dans les montagnes encerclantes. Et nul ne quitta plus Gondolin pour aucun motif de guerre ou de paix, tant qu'elle resta debout. Par Tholondor, seigneur des aigles, on eut vent de la chute de Nargothrond, puis des meurtres de Thingol et de son héritier Dior, et de la ruine du Doriath. Mais Turgon faisait sourde oreille à tous les malheurs du monde extérieur, et jura que jamais plus il ne marcherait aux côtés d'un des fils de Fëanor. Et il interdit à tous de jamais passer l'enceinte des montagnes. Et Tuor demeura à Gondolin, subjugué par sa beauté et sa félicité, et par la sagesse de ses habitants. Et il acquit la stature et l'esprit des grands, et une profonde intelligence de la tradition des elfes exilés. Lors le cœur d'Idril pencha vers lui, et le sien vers elle. Et la haine secrète de Maeglin ne cessait de croître, car son plus vif désir était de posséder Idril, seule héritière du roi de Gondolin. Mais Tuor était si haut dans la faveur du roi que lorsque 7 années eurent passé, il ne put lui refuser même la main de sa fille. Car s'il refusait d'accéder aux demandes d'Ulmo, il n'en comprenait pas moins que le sort des Noldor était lié à celui de son envoyé. Et il n'oubliait pas les paroles que Uor lui avait adressées lors du retrait de l'armée de Gondolin de la bataille des Larmes Innombrables. Il y eut alors une grande et joyeuse fête, car Tuor avait gagné le cœur de la cité, hors Maeglin et ceux qui le soutenaient dans l'ombre. Et c'est ainsi qu'advint la deuxième union entre les elfes et les hommes. Au printemps de l'année suivante, naquit à Gondolin Earendil, le semi-elfe, fils de Tuor et d'Idril Celebrimdal, 500 ans et 3 après la venue des Noldor en Terre du Milieu. Earendil était d'une beauté sans pareille, car sur son visage était une lumière comme la splendeur du firmament, et il avait la grâce et la sagesse des Eldar, et la force et la hardiesse des hommes de jadis. Et la mère murmurait toujours à son oreille et en son cœur, tout comme chez Tuor, son père. Gondolin, en ce temps-là, coulait encore des jours heureux et paisibles, et nul ne savait que l'emplacement du royaume caché avait été révélé à Morgoth par les cris de Húrin, lorsque, perdu dans la désolation au-delà des montagnes encerclantes, et ne trouvant pas moyen d'entrer, celui-ci avait imploré Turgon dans son désespoir. Depuis, la pensée de Morgoth était rivée sur le pays de montagne entre le col d'Anak et le cours supérieur du Sirion, que ses serviteurs n'avaient jamais traversé. Or, ni espions, ni créatures d'Angband ne pouvaient encore y pénétrer à cause de la vigilance des aigles, et Morgoth peinait à concrétiser ses desseins. Mais Idril Celebrimdal, sage et clairvoyante, avait le cœur inquiet, et un sombre pressentiment l'envahit comme un nuage planant sur son cœur. Elle fit donc aménager une voie secrète qui descendrait sous la cité et passerait dessous la plaine pour déboucher à l'extérieur des murs, loin au nord de Lamon Gwaleth. Et elle veilla à ce que peu de gens eussent connaissance de ses travaux, de sorte qu'aucun murmure ne parvint aux oreilles de Maeglin. Or, un jour, alors qu'Earendil était encore jeune, Maeglin disparut. Car Maeglin, comme on l'a raconté, aimait par-dessus tout le travail de la mine et l'art d'extraire le métal, et il était chef et maître de ces elfes qui travaillaient au cœur des montagnes, loin de la cité, en quête de métaux pour le forgeage d'objets de guerre ou de paix. Souvent Maeglin se rendait avec quelques-uns des siens au-delà de l'enceinte des montagnes, sans que le roi sût que l'on enfreignait son commandement. Ainsi, par la volonté du sort, il fut pris par des orques et emmené à Angband. Maeglin n'était ni un faible ni un lâche, mais la menace du tourment eut raison de son courage, et il racheta sa vie et sa liberté en révélant à Morgoth l'emplacement exact de Gondolin et les routes pour l'atteindre et la prendre d'assaut. La joie de Morgoth fut certes très vive, et à Maeglin, il promit la suzeraineté de Gondolin en tant que vassal de sa couronne, et la possession d'Idril Celebrimdal, quand la cité serait prise. Et il faut bien dire que son désir pour Idril, ainsi que sa haine envers Tuor, conduisirent d'autant plus facilement Maeglin à la traîtrise, la plus infâme qui soit dans les annales des jours anciens. Mais Morgoth le renvoya à Gondolin afin d'écarter tout soupçon, et pour qu'il les assiste de l'intérieur quand l'heure serait venue. Et Maeglin se laissa voir dans les halles du roi le sourire aux lèvres et le cœur mauvais, tandis que les ténèbres s'amoncelaient sur Idril. Dans l'année où Earendil eut 7 ans, Morgoth fut enfin prêt, et il lâcha sur Gondolin ses balrogs, ses orques et ses loups, et parmi eux vinrent des dragons de la race de Glaurung, désormais nombreux et terrifiants. L'armée de Morgoth franchit les montagnes par le nord, à l'endroit le plus élevé et le moins étroitement surveillé. Et elle vint de nuit, à l'occasion d'une fête, alors que tous les gens de Gondolin se tenaient sur les murailles à attendre le lever du soleil pour entonner leur chant à son ascension. Car c'était le matin de cette grande fête, dite des portes de l'été. Mais la lueur rouge monta dans les collines au nord et non à l'est, et l'avancée de l'ennemi n'eut point de cesse qu'il fût massé sous les remparts, et Gondolin se trouva assiégé sans espoir de salut. Des actes héroïques et désespérés qu'accomplirent les chefs des grandes maisons et leurs guerriers, tout hors non des moindres, il est dit maintes choses dans la chute de Gondolin. De la bataille d'Ectelion de la Fontaine contre Gothmog, seigneur des Balrogs, à même la place du roi, où chacun terrassa son adversaire, et de la défense de la tour de Turgon par les gens de sa maison, jusqu'à ce qu'elle fût jetée bas. Et terrible fut sa chute, et celle de Turgon lorsqu'elle tomba. Tuor voulut sauver Idril du sac de la cité, mais Maeglin s'était emparé d'elle et d'Earendil. Et Tuor le combattit sur les remparts et le précipita au dehors, et son corps heurta par trois fois la paroi rocheuse de Lamon-Gwaleth avant de tomber dans les flammes en contrebas. Alors, Tuor et Idril rassemblèrent tous les survivants du peuple de Gondolin qu'ils purent trouver dans le chaos de l'incendie, et ils les menèrent par la voie secrète qu'Idril avait fait aménager. Or, les capitaines d'Angband ne savaient rien de ce passage, et ils ne pensaient pas voir des fugitifs se diriger vers le nord, où les montagnes étaient plus hautes et plus proches d'Angband. Les fumées de l'incendie et les vapeurs qui s'exhalaient des belles fontaines de Gondolin sous la flamme des dragons du nord recouvrirent le val de Toumladen d'un triste linceul. Et celui-ci abrita la compagnie de Tuor dans sa fuite, car il y avait encore un long chemin à parcourir en terrain découvert, depuis l'issue du tunnel jusqu'au pied des montagnes. Ils les atteignirent néanmoins contre tout espoir, et entreprirent leur ascension, malheureux et misérable. Car ces hauteurs étaient d'un froid et d'un péril extrême, et ils convoyaient un grand nombre de blessés, ainsi que des femmes et des enfants. Dans un terrible col du nom de Kirith Thoronath, la faille des aigles, une route en corniche serpentait dans l'ombre des plus hautes cimes. À droite, elle était murée par un apic, tandis qu'à gauche, un terrible gouffre plongeait dans le vide. Leur cortège s'étalait sur ce chemin étroit lorsqu'il fut pris en embuscade par des orques, car Morgoth avait stationné des guetteurs tout autour du cercle de montagne, et un balrog les accompagnait. Ils allaient au-devant d'une mort certaine, et à peine eussent-ils été sauvés par la valeur de Glorfindel aux blonds cheveux, chef de la maison de la Fleur d'Or de Gondolin, si Thorondor n'était venu les secourir à point nommé. Que de chants ont célébré le duel de Glorfindel contre le Balrog sur un pic rocheux parmi les hauteurs, et tous deux périrent au fond de l'abîme. Mais les aigles fondirent sur les orques qui se sauvèrent en poussant de hauts cris. Et tous furent tués ou jetés dans les profondeurs, et la rumeur des rescapés de Gondolin mit longtemps à parvenir aux oreilles de Morgoth. Puis, Thorondor récupéra le corps de Glorfindel, et ils l'ensevelirent sous un amas de roches en bordure du col. Et une herbe verte poussa sur le monceau, et des fleurs jaunes boutonnèrent dans l'aridité de la pierre, jusqu'à ce que le monde fût changé. Ainsi donc, sous la conduite de Tuor, fils de Uor, les rescapés de Gondolin passèrent les montagnes et descendirent dans le val du Sirion, fuyant vers le sud. Et au terme de voyages fatigants et périlleux, ils gagnèrent enfin Nan Tathren, le pays des Saules, car le pouvoir d'Ulmo courait encore dans les eaux du grand fleuve et il les entourait. Ils s'y reposèrent un temps et furent guéris de leurs maux et de leurs fatigues, mais leur chagrin était sans remède. Et ils donnèrent une fête en mémoire de Gondolin et des elfes qui y avaient trouvé la mort, filles et épouses et guerriers du roi. Et ils furent nombreux à chanter en souvenir de Glorfindel le bien-aimé sous les saules de Nan Tathren au déclin de l'année. Et Tuor composa un chant pour Earendil son fils, racontant la venue d'Ulmo, seigneur des eaux, au rivage du Nevrast de jadis. Et la nostalgie de la mer s'éveilla en son cœur et celui d'Earendil. Idril et Tuor quittèrent donc Nan Tathren et descendirent le fleuve jusqu'à la mer. Et ils vécurent près des bouches du Sirion et joignirent leur nombre aux compagnons d'Elwing, fille de Dior, elle-même réfugiée là-bas depuis peu. Et quand on eut vent à Balar de la chute de Gondolin et de la mort de Turgon, Ereinion Gil-galad, fils de Fingon, fut proclamé grand roi des Noldor en terre du milieu. Mais Morgoth croyait que son triomphe était complet, peu soucieux des fils de Fëanor et de leurs serments, qui ne lui avaient jamais nui, mais toujours grandement servi. Et il rit en sa noire pensée, sans même regretter l'unique Silmaril qu'il avait perdu, car à cause de celui-ci, se disait-il, les derniers lambeaux du peuple des Eldar disparaîtraient de la terre du milieu pour ne plus jamais la troubler. S'il avait connaissance de la colonie près des eaux du Silion, il ne le laissa pas voir, attendant son heure, prêt à récolter les fruits du serment et du mensonge. Mais sur les rivages du Silion et de la mer, grandit un peuple elfique, âme glanée du Doriath et de Gondolin. Et de Balar, les marins de Kildan se joignirent à eux. Et ils se tournèrent vers les flots et la construction de navires, sans jamais s'éloigner des côtes de l'Arvernienne, à l'ombre de la main d'Ulmo. Et l'on dit que, à cette époque, Ulmo sortit des eaux profondes et se rendit en Valinor pour informer les Valar de la détresse des elfes. Et il les engagea à leur pardonner et à les sauver de la domination de Morgoth et à récupérer les Silmaril qui eux seuls préservaient alors la lumière des jours de la félicité quand les deux arbres fleurissaient encore en Valinor. Mais Manwë resta quoi ? Et quel conte saurait pénétrer les résolutions de son cœur ? Les sages ont dit que l'heure n'était pas encore mûre, que seul un messager, venu plaider en personne la cause des elfes et des hommes, implorant le pardon pour leurs méfaits et la pitié pour leurs malheurs, eût pu influer sur les conseils des puissances. Quant au serment de Fëanor, on dit que peut-être Manwë lui-même ne pouvait le défaire avant qu'il eût touché à son terme et que les fils de Fëanor eussent renoncé aux Silmaril qu'ils avaient implacablement revendiqués. Car la lumière qui éclairait les Silmaril était l'œuvre des Valar eux-mêmes. À cette époque, Tuor sentit la vieillesse le rattraper, et la nostalgie de la haute mer devenait toujours plus forte en son cœur. C'est pourquoi il construisit un grand navire qu'il nomma Earamé, c'est-à-dire l'aile marine. Et avec Idril Celebrimdal, il fit voile vers le couchant, vers l'ouest, et disparut de tous les contes et les chants. Mais l'on chanta plus tard que seul entre tous les hommes mortels, Tuor fut compté parmi ceux de la race aînée, et qu'il rejoignit les Noldor qu'il aimait. Et son sort est à part, détaché de celui des hommes.